Bonjour, donc merci beaucoup pour cette invitation. Je tiens à préciser, compte tenu des annonces qui ont pu être faites, que je ne prétends pas vous proposer une intervention d'une extrême expertise, mais très modestement partager avec vous les travaux en cours menés donc à la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, de manière à vous donner des pistes de réflexion et surtout des indications sur des travaux qui sont à votre disposition à ce jour, sous la forme de mise en ligne ou également d'exposition. Donc, comme vous le précisiez, j'ai réussi à mettre à votre disposition, à proximité, grâce aux efforts importants de la DSM, cette exposition Territoire 2040. Je vous en dirai deux mots. Ça vous permettra notamment d'appréhender des notions de prospective territoriale qui sont par définition assez innovantes et, je pense, assez intéressantes pour vous. Donc, dans un premier temps, il m'avait été demandé de vous présenter l'histoire de l'aménagement du territoire sur les 50 dernières années. Autant vous dire que l'enjeu est assez ambitieux et que ce que j'ai imaginé, c'est évidemment de récapituler. Alors, si ça marche, est-ce qu'il y a un sens ?
Oui, dans l'autre sens.
Dans l'autre sens.
Il faut pas...
Je vois bien les flèches, mais...
Ah oui, non.
Voilà. Donc, dans un premier temps, pardon, de manière très synthétique, je vous propose de balayer, mais relativement rapidement, les 50 dernières années de la politique publique d'aménagement du territoire. Je pense que ça vous parle à tous, au moins sur certains volets, dans la mesure où, tous autant que nous sommes des citoyens d'un territoire donné et nous avons vécu ces différentes étapes. Alors évidemment, j'ai balayé cette histoire au filtre de l'activité de la DATAR, qui a justement été créée il y a 50 ans, donc en 1963, avec cette mission de travailler auprès du Premier ministre et de l'ensemble des services de l'État, et évidemment, petit à petit, avec la décentralisation, avec l'ensemble des acteurs locaux, à ce développement des territoires et à l'apport d'une expertise ou d'un soutien qui, petit à petit, s'est adapté aux besoins identifiés des territoires et, évidemment, de leur population. Donc, si je vous parle de SIAT et de FIAT, Comité interministériel d'aménagement du territoire, Fonds interministériel d'aménagement du territoire, évidemment, autour de la politique publique, ont toujours existé des dispositifs financiers de soutien qui ont pris des formes et des noms divers. Mais l'idée était bien de venir soutenir les inégalités et les fragilités identifiées au moyen d'actions, notamment budgétaires. La création des parcs naturels régionaux pour donc les années 60. Dans les années 70, on a commencé à travailler à la fédération des acteurs locaux autour de projets de territoire et notamment donc on a développé ce qui s'est appelé les contrats de pays qui ont donc réuni autour d'un même projet et avec des financements dédiés les acteurs sur une échelle nouvelle qui n'était pas nécessairement celle du canton ou celle du département mais bien celle d'un territoire de projet. Donc ça c'est une notion qu'on retrouve ensuite au fil des décennies qui suivent. Un petit clin d'œil parce que évidemment on travaille à une échelle nationale mais avec des spécificités qui sont locales et donc je faisais la référence au plan routier breton. Évidemment, selon les spécificités et l'actualité du moment, on va zoomer sur certains territoires qui sont à un moment donné plus fragiles ou plus en difficulté. Dans les années 80, on a mis en place un dispositif qui est toujours en vigueur, que sont les contrats de plan ou contrats de projet, ensuite ils ont été nommés comme ça, et désormais la nouvelle programmation reparle de contrats de plan État-Région. Donc, on met autour de la table les acteurs locaux, qu'ils appartiennent à des services publics, État ou à des collectivités locales, pour identifier sur la base d'un diagnostic des besoins particuliers et se mettre d'accord sur des pistes d'action, des pistes d'amélioration communes, avec là aussi des budgets communs. Dans les années 90, on a continué à travailler sur ces programmations à l'échelle de territoire et renforcé notamment le volet « ville ». On y reviendra. C'était quelque chose d'innovant. Et puis, on a commencé à avoir des débats très actifs sur l'aménagement du territoire dans la mesure où, on va y revenir, on constatait bien que le clivage rural-urbain ne suffisait plus à venir définir une politique d'aménagement du territoire et qu'au sein même du rural, des disparités et des inégalités pointaient. Dans les années 2000, on a continué à travailler sur donc, la définition de zonage et le renforcement de certaines zones prioritaires. Ça a pris la forme de pôles de compétitivité, donc avec des thématiques qui sont venues renforcer le développement de certains territoires, et puis également les pôles d'excellence rurale, dont là aussi, je pense, vous avez tous entendu parler, ce sont des vocables qu'on identifie. Également, au travers de ces 50 dernières années, il y a un fil conducteur qui est la prospective. C'est-à-dire, certes, on observe, on analyse, mais également, on s'interroge sur les territoires de demain, voire d'un peu plus loin que demain, d'ailleurs. Donc, dans les années 70, on a planché sur les scénarios pour les années 2000. Et en l'occurrence, on s'était un petit peu inquiété d'un scénario qu'on avait appelé le scénario de l'inacceptable, qui amenait à ce qu'on appelle la désertification. Et donc, on s'est interrogé aux manières de corriger cette désertification, ce grand désert français. Dans les années 80, on a continué donc sur la base de rapports. Il faut savoir qu'Olivier Guichard, dont on voit souvent le nom, était le premier délégué interministériel, le premier DATAR. Donc, on a travaillé à des propositions pour l'aménagement du territoire. Et voilà, chaque décennie a été marquée par son scénario, ses perspectives, ses propositions. Et donc l'exposition Territoire 2040 s'inscrit bien dans cette lignée-là et propose des scénarios pour les années 2040. Donc vraiment sur de la prospective et différentes hypothèses qui sont un petit peu des caricatures, des tendances du moment. Qui sont à la fois les grandes lignes de ce qui se produit de par les déterminants extranationaux. Donc vous verrez des panneaux qui portent sur des phénomènes géographiques, le réchauffement par exemple de la planète ou le vieillissement de la population, et également des scénarios qui tiennent aux orientations nationales, voire infranationales, évidemment régionales ou infrarégionales, et donc qui sont beaucoup plus à notre main. Donc je ne vais pas, pour ma part, rentrer dans le sujet qui vous préoccupe le plus, j'imagine, des territoires de santé, puisque Madame le fera dans la mesure où ces politiques sont évidemment portées par les ARS. Et pour ma part, je vais, en appui de cet aspect historique, entrer dans l'actualité des territoires et leur organisation. Si j'arrive à manipuler cet outil qui, décidément, est un peu complexe pour moi, voilà. Donc, leur organisation en termes d'interdépendance. C'est vraiment quelque chose. Moi, je suis nouvelle à la DATAR, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis là depuis le mois d'août. Et donc, je découvre ces travaux, un peu comme vous allez le faire ce matin. Et c'est quelque chose qui me paraît vraiment important de sortir de ce clivage rural-urbain et de rentrer dans les spécificités régionales. Alors, malheureusement, il y a une des cartes de ma présentation qui ne passe pas ce matin, mais on va faire sans, et je vais vous commenter ce qui aurait pu passer à l'image, que par ailleurs, vous pourrez retrouver sur le site de la DATAR, donc ça n'est pas perdu définitivement. Mais c'est vrai que ça aurait été plus pratique si on avait pu la voir. Donc, sur cette première diapo, je voulais attirer votre attention sur l'urbanisation du territoire national. Quelque chose dont on a tous le sentiment, dont on a tous une expérience, mais qui, je trouve, au travers de cette carte, alors qui est trop petite, certainement pour au moins ceux qui sont installés au fond de la salle, mais l'éloignement vous permet sans doute de voir les grandes masses, et c'est bien là-dessus, effectivement, que je voulais partager avec vous. On voit sur cette carte-là qu'en un demi-siècle, l'urbanisation a profondément transformé le territoire national. Et les résultats des recensements de la population confirment la poursuite d'une périurbanisation, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une urbanisation, mais bien d'une périurbanisation, caractérisée par le développement des zones périphériques par rapport aux centres urbains. Donc aujourd'hui, 95% de la population vit sous l'influence des villes. 95%. Donc, sur cette carte des aires urbaines, on voit différents espaces qui résultent de cette urbanisation. D'une part, en rouge, les aires urbaines à proprement parler. Et d'autre part, le périurbain en orange, qui regroupe 35% de la population française et se caractérise par le fait que 40% des actifs qui habitent dans ces espaces vont travailler dans les pôles urbains. Donc on a forcément des déplacements domicile-travail qui sont très importants dans ces zones oranges. Donc vous voyez que pour certaines, elles sont pour autant assez éloignées du cœur urbain auquel elles se rapportent. Il reste des espaces ruraux en blanc, qui abrite 30% de la population. Donc cette urbanisation, elle a concerné tout le territoire national, avec néanmoins des intensités différentes. Donc c'est ce que vous auriez pu voir sur la carte des évolutions démographiques. Donc en gros, ce que vous auriez pu voir sur cette carte, c'est un accroissement de la population beaucoup plus marqué durant les 20 dernières années, à la fois dans des zones périurbaines, mais également sur certains territoires nationaux spécifiques, à savoir l'arc atlantique et méditerranéen, le sillon rhodanien, ce qui justifie peut-être de la surreprésentation dont vous parliez tout à l'heure, monsieur Mariotti, mais je ne veux pas venir vous trouver des excuses. donc on voit bien en réalité des dynamiques territoriales différenciées dont on pense qu'elles vont se poursuivre. Et c'est ce que vous verrez effectivement dans cette exposition Territoire 2040. On a bien une tendance assez lourde qui s'est développée durant les 20 dernières années, mais qui est a priori en mouvement pour la suite des années qui viennent. Donc cette urbanisation, elle ne s'est pas traduite par une accentuation du clivage urbain-rural, au contraire. Ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît important à pointer. Le clivage, désormais, urbain-rural semble obsolète et la grille de lecture qui fait aujourd'hui sens, en tout cas pour la DATAR, c'est celle de l'interdépendance des territoires et de leur dynamique imbriquée. Le rapport entre le rural et l'urbain se trouve profondément modifié par l'accroissement des interactions entre ces différents types d'espaces. Donc, on parle de mobilité résidentielle, de localisation des équipements et des entreprises, de la recherche d'accès aux différentes aménités urbaines ou paysagères, mais aussi de l'homogénéisation des modes de vie. Je vais y revenir dans un instant. Donc ces interactions font système de façon différenciée au sein du territoire national. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et ce sur quoi je souhaite donc désormais... Oh, c'est épouvantable. Voilà. Donc attirer votre attention sur cette notion de typologie des territoires. Et en l'occurrence, j'ai préféré zoomer sur la typologie des campagnes françaises qui me paraissait là aussi assez innovante et assez nouvelle et donc utile à partager avec vous. Donc, à titre d'exemple de ce nouveau système territorial, on va parler d'une diversité des situations des campagnes françaises et non plus parler de monde rural, mais bien de différents systèmes qui sont donc caractérisés sur cette carte de différentes couleurs et en différentes catégories. Donc, la première catégorie que vous pouvez identifier, sachant que, évidemment, ce qui est blanc, ce sont les villes, mais ça, vous l'aviez deviné, ça va être la catégorie des campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées. Donc, c'est celle que vous retrouvez sur la carte dans les couleurs les plus chaudes, donc en marron, orange et rouge. Vous arrivez à le voir de manière... bon, tant mieux. Donc... ce qu'il faut voir, c'est que ces campagnes, donc on parle bien de campagnes, elles abritent 16 millions d'habitants qui résident donc dans des communes denses, à forte croissance résidentielle et à proximité des grandes métropoles ou de villes moyennes. Donc ça couvre 25% de la superficie nationale métropolitaine. Et globalement, dans ces campagnes-là, on a un dynamisme démographique, une croissance de l'emploi, un bon niveau de qualification, mais des problèmes d'étalement urbain, un emploi qui peut être éloigné, et donc un modèle qui, d'un point de vue écologique, n'est pas durable. Et pour les populations également, des problématiques de mixité et des problématiques d'urbanisme et de transport assez importants, évidemment, pour les personnes qui habitent dans les zones les plus éloignées et qui ont des déplacements pendulaires les plus importants. On a une autre catégorie qui est celle des campagnes vieillies à faible densité. Donc, on comprend bien de part, ne serait-ce que le titre, qu'on a affaire là à des campagnes déjà qui abordent des problématiques assez importantes. Donc, il y a environ 5 millions d'habitants qui habitent dans ces territoires-là. Et ces territoires couvrent 42% de la superficie métropolitaine. Donc, ces territoires ont connu une longue histoire d'exode rural. Et aujourd'hui, elles connaissent un brassage de population. Donc, la tendance de l'exode rural s'est inversée. Elles ont accueilli de nouvelles populations. Mais néanmoins, en dehors de ce regain démographique, il persiste un vieillissement de la population avec des problématiques particulières, et notamment en termes d'accès aux soins et de capacité à choisir le territoire dans lequel ces populations vont vieillir. Il y a aussi des problématiques d'enclavement et des enjeux d'accessibilité, là aussi sur lesquels je me propose de revenir ensuite. Enfin, on a donc ces campagnes-là, c'est celles qui sont en vert et jaune sur la carte. Dernière catégorie, c'est la catégorie des campagnes agricoles et industrielles, qui là aussi regroupe environ 5 millions d'habitants et qui couvre 26% de la superficie métropolitaine. Donc on a des territoires de plaine avec une influence urbaine plus faible et des villes qui sont plus éloignées, une densité faible, une population jeune, plutôt agricole. Donc dans certains territoires dans certains territoires, sauf dans le Nord-Est, je vais y arriver, et une situation économique fragile, marquée par donc des emplois agricoles et industriels, dont évidemment l'actualité vous donne l'occasion malheureusement chaque jour d'entendre parler de ces sujets-là. On sait combien les situations peuvent être fragiles. Et donc avec des niveaux de qualification et des revenus faibles et un chômage qui peut être élevé. Donc des territoires avec des enjeux économiques et sociaux qui sont très importants et des liens avec les villes qui sont à renforcer. Donc c'est bien sur ce travail de renforcement des liens et des interactions que nous travaillons aujourd'hui quand nous travaillons sur les sujets d'aménagement du territoire. Et ce qui me paraissait utile également, parce que je ne veux pas être trop longue quand même, oui, j'ai presque consommé tout mon temps de parole, ce sur quoi je voulais également appeler votre attention, c'est effectivement cette notion nouvelle d'égalité des territoires. Donc, je vous ai parlé de la DATAR. Il faut savoir, si vous l'ignorez, que la DATAR va disparaître à l'horizon 2014, au début de l'année 2014, et se transformer en un commissariat général à l'égalité des territoires, qui englobera, pour faire simple, les administrations aujourd'hui en charge de la politique de la ville. Donc, simplement, ce que je voulais signifier au travers de cette info-là, c'est que... on ne parle plus d'aménagement du territoire au sens où on pouvait le faire durant les 50 dernières années, mais on parle aujourd'hui d'égalité des territoires et bien de systèmes territoriaux qui, selon les différentes problématiques qui sont ici représentées, vont mobiliser des concepts et des notions et des problématiques spécifiques, mais néanmoins vont toujours travailler sur des interactions, des interdépendances et faire en sorte que ces systèmes soient les plus équilibrés possibles en réalité. Donc, je vais passer rapidement sur les autres diapos que j'avais identifiées. Celle-ci, néanmoins, me paraît importante. On parle des systèmes urbains métropolisés. Donc, là aussi, pour montrer qu'on a des métropoles, Paris étant évidemment une métropole d'intérêt international, mais on a des métropoles d'intérêt européen ou national qui elles-mêmes tissent un réseau et des interactions avec des villes qui sont de taille vraiment disparate et qui parfois peuvent même être des villes moyennes. Et elles-mêmes, ces villes moyennes, tissent un réseau avec des bourgs. Et ce qui est important, c'est que ce réseau fonctionne bien. Alors, celle-ci, ben, voilà, je suis invitée à y passer très rapidement. Évidemment, voilà, tout plein d'autres problématiques, y compris celle des espaces transfrontaliers, pardon, mais je passe. Donc, en dernier lieu, ce que je souhaitais faire, c'est balayer rapidement les différents modes d'action de la DATAR, mais plus globalement des services compétents en matière d'aménagement du territoire ou d'égalité des territoires, et qui vise à innover. Donc l'innovation, elle va passer par, notamment pour l'équipe dans laquelle je travaille aujourd'hui, ce dossier de l'accessibilité des services publics et au public dans l'ensemble du territoire national. Donc ça, c'est un programme qui avait été expérimenté ces dernières années et qui va faire l'objet d'une généralisation. La problématique est bien celle de la mise à disposition de l'ensemble des citoyens d'un bouquet de services, services publics, mais également services qu'on appelle services au public, donc y compris les services des caisses de sécurité sociale, que ce soit la caisse d'allocation familiale, la caisse d'assurance maladie, etc., la poste, Pôle emploi, les fournisseurs d'énergie, etc. Évidemment, toute une problématique en matière de services et d'offres de soins et de santé. Je parlais d'une population vieillissante. Il s'agit évidemment de prévenir ce vieillissement, de l'accompagner. Également, les problématiques que vous connaissez en matière de santé mentale. Comment on peut mailler le territoire avec des services qui ne sont pas toujours des services spécialisés, mais qui sont des services relais, de premier niveau, et vraiment qui travaillent en proximité des habitants. Donc, ça passe par le déploiement de maisons de services au public. On a le projet d'en déployer 1000 à l'horizon 2017 sur le territoire national et d'étoffer l'offre de ces maisons qui aujourd'hui donc s'appellent la plupart du temps des relais de services publics. Il y en a environ 300, vous les connaissez peut-être pour une part. Donc l'innovation, c'est celle de l'accessibilité des services au public. C'est celle, évidemment, donc de la spécificité de certains pôles de compétitivité ou pôles d'excellence rurale. Je passe très vite, hein, parce que c'est pas forcément le lieu. Évidemment, des situations qui sont celles de vraies difficultés. Comment parvient-on à accompagner des restructurations telles que celles de la défense? Donc là aussi, il s'agit d'innover, de trouver et dans la méthode et dans les solutions des pistes innovantes et pertinentes. Évidemment, la problématique de l'accès au très haut débit, donc ça, en deux mots, malgré tout, je voulais vous le dire, parce que ça peut concerner vos établissements dans le cadre du déploiement du plan national très haut débit. On veille à prioriser l'accès des centres de soins et des établissements à cette offre nouvelle très compétitive. Donc on a notamment produit à la DATAR un guide méthodologique qui a été présenté ces dernières semaines et qui va être mis en ligne sur notre site, que je pourrais vous faire parvenir si jamais vous ne le trouviez pas, qui permet d'identifier les besoins en infrastructure numérique pour le déploiement de projets de télémédecine notamment. Et je pense que ça peut être utile, y compris pour vos établissements et vos projets, dans le sens où on a défini une typologie de projets et mis en regard les infrastructures nécessaires. Et ce qui ressort de cette étude, c'est notamment le fait qu'on a souvent tendance à surdimensionner d'un point de vue technique nos projets et on peut arriver à travailler dans de bonnes conditions avec une offre qui est relativement peu coûteuse et plus accessible qu'on pourrait le croire dès aujourd'hui. Et évidemment, demain, avec ce déploiement, on aura des capacités encore accrues. Donc évidemment, le très haut débit, c'est un point important. Pour finir, et sans vendre une quelconque soupe, je voulais mettre à votre disposition donc les différents outils que la DATAR met en ligne actuellement. Donc, ces travaux d'observation, de prospective, d'évaluation autour de l'intelligence territoriale, sachez que vous pouvez avoir accès à ces travaux en ligne, que ce soit des rapports, des études, des articles, mais également des bases de données. Donc, il existe un observatoire des territoires qui travaille avec l'ensemble des fournisseurs de données et notamment tous les professionnels de la statistique publique et intègre ces données dans des outils cartographiques relativement simples Bien sûr gratuit et accessible en ligne. Et vous pouvez, à l'échelle au moins des bassins de vie, mais souvent des communes, arriver à sortir des cartes qui moulinent différents indicateurs qui sont sociaux, mais également indicateurs de santé, économiques, etc. Donc je voulais vous le dire parce que parfois ça peut déjà, en premier ressort, être... Une première information. Et évidemment, si vous souhaitiez des travaux plus fins que vos interlocuteurs des ARS n'avaient pas à leur main, n'hésitez pas à me saisir pour aller plus loin sur cette problématique-là de la cartographie. On travaille donc sur une vision stratégique nationale, mais ça, vous avez la chance d'avoir l'expo à votre disposition, donc je n'y reviens pas. Et puis donc des publications qui peuvent être plus ou moins larges, plus ou moins nationales, plus ou moins prospectives. Donc tous ces éléments sont en ligne. Et là aussi, si vous aviez des difficultés à vous les procurer, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà relativement rapidement ce qui me paraissait utile de vous dire. J'espère que ça répond à vos préoccupations et que ça vous donnera des pistes pour aller plus loin le cas échéant. Thank you.